Alors, il dort le gros con? Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux.
C'est difficile de trouver les mots. Cette tragédie et l'injustice me brisent le cœur. Je ne peux pas imaginer ce que vit actuellement la famille de George Floyd. Comme plusieurs d'entre vous l'avaient dit, il ne suffit plus de ne pas être raciste, il faut être antiraciste. Il y a trop longtemps que ça dure. Le racisme et la brutalité doivent cesser. C'est notre problème à tous et nous devons combattre collectivement. Je prie pour que tous ensemble, nous trouvions la paix. Signé Céline XX. Mais qui est donc cette personne qui ose crier au monde entier son rejet de la connerie humaine, mais pas au point de donner sa véritable identité? La race humaine n'existe pas, la couleur de peau n'est pas une race, les origines non plus. Alors pourquoi Céline XX ne parle pas de connerie humaine? Depuis la nuit des temps, les hommes ont cherché à dominer d'autres hommes. Pour cela, ils ont créé la police. Elle est à l'image de ceux qui la dirigent. La France et les États-Unis sont-elles une démocratie? La population noire et les gilets jaunes en doutent. On ne peut malheureusement leur donner tort, et pas sûr qu'une prière fera avancer les choses. Au terminus des prétentieux, 929e citation ce soir, trouve que les mentalités ont décidément bien du mal à évoluer. Céline Dion, et pourquoi pas Johnny, sous les 90.0 de Radio B, il y a pourtant des artistes que l'on croyait honni. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Terminus des Prétentieux tous les jeudis de 17h15 à 18h15 pour une émission placée sous le signe du mois de juin. Encore une, me direz-vous. Mais si nous vous parlerons musique, nous partagerons avec vous quelques souvenirs, parfois de votre enfance, sûrement plus de votre adolescence. Et tant pis si vous avez découvert ces artistes tardivement. Aucun ne devrait vous laisser indifférent. Impression confirmée par mon co-animateur. Quelle idée étrange que cette émission qu'il a qualifiée de morbide. Allez regarder de plus près, c'est l'histoire du rock qu'il va nous raconter, et le rock avec un grand R. De là à y trouver Michael Jackson, il y a un pas qu'il n'a pas osé franchir. Le rock a aussi ses rois défunts. Tonio, bonsoir.
Salut Michel, salut à tous. Oui, effectivement, cette émission n'aurait peut-être pu la faire fin octobre, par exemple, à la veille d'Halloween. Ça aurait été bien pour une émission morbide.
Ah, elle aurait vraiment été morbide.
Ah ouais, tu crois pas?
Ouais.
Donc voilà, bon, écoute, effectivement, on va faire une petite histoire du rock. Ouais, allez, go.
Come on.
tiens, ce morceau me dit quelque chose, du temps où j'écoutais du hard rock. Oui, à l'époque, du début des radios libres, on ne disait pas métal. Alors je me replonge dans ma discographie où les pochettes de femmes légèrement dénudées étaient légion. Et là, de ma mémoire, ressort le premier succès d'un groupe aujourd'hui disparu, ou presque, les Américains de Van Halen. Non, vous n'y êtes pas. Il ne s'agit pas du cultissime Jump, qui n'est pas le premier succès du groupe. Un gros son, un peu sale, une guitare comme on n'en faisait pas à l'époque, celle d'Eddie Van Halen et cette chanson You Really Got Me. Et là, c'est la déception. C'est seulement la copie, presque non conforme, du premier succès d'un groupe britannique, les plus influents de la scène rock des années 60, que le grand public d'aujourd'hui ne connaît presque pas. Il s'agit des Kinks, les pervers en argot anglais. Les débuts du combo créé par les frères Ray et Dave Davies sont compliqués. Il faut dire que la vague Beatles et Rolling Stone a tout balayé sur son passage et il est compliqué de se faire remarquer. Après deux premiers morceaux passés totalement inaperçus, The Kinks sort You Really Got Me, le morceau culte de ce soir. La chanson écrite par Ray Davies se caractérise par un riff de guitare au son incisif, l'un des plus célèbres de l'histoire du rock, obtenu par Dave Davies en entaillant la membrane du haut-parleur d'un de ses amplificateurs à coups de rasoir. Avec son son de guitare distordu, elle est parfois considérée comme le premier morceau de hard rock. Le passage des Kinks dans l'émission Ready, Steady, Go et sa diffusion abondante sur les ondes des radios pirates permettent au single de se classer rapidement en tête des ventes au Royaume-Uni. Importé en hâte, il entre également dans le top 10 aux États-Unis. Le groupe devient ainsi l'une des influences majeures de la scène garage américaine contemporaine et l'un des lointains précurseurs du hard rock et du heavy metal. You Really Got Me a été maintes fois repris par Van Halen sur l'album du groupe éponyme, mais également par Robert Palmer, Iggy Pop, Michael Schenker, Eric Bibb ou The Cure. Monsieur Bricolage l'utilise même pour une publicité en 2017. La France n'échappe pas à la règle qui veut qu'un standard du rock soit francisé et massacré. C'est le cas quelques semaines seulement après la sortie de You Really Got Me avec la version signée.
Un piège. Johnny ?
Non. Non, Antonio.
Ah mince.
Pas notre Johnny National, mais par celui qui avait le choix entre le talent d'Elvis Presley et le nom du personnage joué par le King dans le film Loving You. Je vais bien sûr parler de Dick Rivers.
Ah oui, je l'avais pas en tête celui-là.
Eh oui. Le morceau s'intitulait La seule qui me tient, tant pis pour le rock'n'roll. The Kinks prit alors son envol avec une période dorée entre 1967 et 1972. La suite fut plus chaotique et les échecs commerciaux se multiplient. Leur dernier album, Phobia, date de 1993. 3 ans plus tard, le groupe se sépare. Le 24 juin 2010 disparaissait Pete Quaif, le bassiste de The Kinks, présent à leur début et ayant quitté le combo en 1969. Il reviendra en 1990 et sera aux côtés de Ray Davies, Dave Davies et Mick Avory pour l'entrée des Kinks au Rock and Roll Hall of Fame à Cleveland avec The Who et Simon & Garfunkel. 20 ans et un jour plus tard, The Kinks restera pour toujours celui qui a inventé le riff qui tue et les métalleux en tout genre leur doivent beaucoup. Entre leur version et celle de Van Halen, il faut avouer que mon cœur balance. Les Américains ont respecté l'esprit de leurs idoles avec leur copie non conforme et avaient amené un peu de nouveauté et de fraîcheur à un métal qui en avait bien besoin. Pas sûr que la reprise de Dick Rivers passe un jour à la postérité. Il est 17h passé de quelques minutes sur les 90.0 de Radio B, ou alors Tonio.
Ou alors vous écoutez l'habituelle rediffusion du vendredi matin si vous êtes avec nous depuis 9h, ou celle du samedi après-midi depuis 14h.
Ce soir, nous aurons une pensée émue pour des artistes qui nous ont quittés au mois de juin. L'occasion, une fois de plus, de refaire l'histoire, celle de la musique, mais pas seulement. Nous nous replongerons dans nos souvenirs, certains très lointains, et nous rendrons hommage à ceux sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous débuterons les hostilités au pays de l'oncle Sam. Tonio a décidé de rendre hommage à un groupe de rock avec un grand R et à son guitariste disparu le 25 juin 1988. Sa devise, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Je vous laisse deviner lequel a eu sa peau.
Alors, le groupe en question, c'est les Red Hot Chili Peppers, qui sont originaires de Los Angeles. Los Angeles en espagnol.
Comment on dit en espagnol ?
Los Angeles.
Ah, d'accord.
C'est un mot espagnol, en fait.
Oui.
C'est un nom de ville espagnol.
Qui veut dire la cité des anges en espagnol, alors ?
Ça veut dire les anges, en fait. C'est le pluriel d'anges.
Bien.
Donc, il est formé en 1983 par Anthony Kiedis au chant et Michael Balzari, surnommé Flea, à la basse, auquel se joignent Hillel Slovak à la guitare et John Irons à la batterie. Les Red Hot Chili Peppers adoptent une identité artistique forte dès leur début, qui fera la renommée du groupe. Des prestations scéniques considérées comme énergiques et marginales, une technicité et une virtuosité instrumentale, ainsi que des textes profonds sur des thèmes comme l'amitié, l'amour, la sexualité et la drogue. Tu n'as pas si bien dit tout à l'heure, hein, Michel. La musique des Red Hot Chili Peppers se caractérise par le mélange de plusieurs genres musicaux tels le funk rock, le rock alternatif, le funk metal et le rap rock. Le groupe enregistre Fiki Stile en 1985, puis The Uplift Mofo Party Plan en 1987. Le 25 juin 1988, Hillel Slovak meurt d'une surdose d'héroïne. Jack Irons fait une dépression et quitte le groupe. John Frusciante, un grand fan des Red Hot Chili Peppers, est engagé pour remplacer le guitariste décédé Slovak, tandis que Chad Smith officie en tant que nouveau batteur. Donc en gros, à la fin des années 80, le groupe a été remodelé. Dès 1989, le groupe enregistre Mother's Milk, qui lui confère une notoriété internationale. En 1991, le quatuor change de label pour Warner Bros. Records et entame une longue collaboration avec le producteur Rick Rubin. Le groupe atteint la consécration avec la sortie de l'album Blood Sugar Sex Magic et ses 5 singles, donc Get It Away, Under the Bridge et Suck My Kiss. Donc je vous laisserai... Je vous laisserai traduire vous-même. Qui le propulse sur les scènes du monde entier. La tournée qui s'ensuit est marquée par le départ de John Frusciante, qui ne supporte pas cette notoriété soudaine et sombre lui aussi dans la toxicomanie. Bon, je vous rassure, il ne mourra pas d'une overdose. Après plusieurs années de soins, Frusciante réintègre les Red Hot Chili Peppers en 1999 et enregistre Californication. L'album, qui comprend les singles Scare Tissue et Californication, est un nouveau succès international pour le groupe. Après les albums By The Way en 2002 et Stadium Arcadium en 2006 et la réussite de leurs tournées respectives, John Frusciante quitte de nouveau le groupe en 2009 pour se consacrer à ses projets personnels. Il est remplacé par un de ses amis avec lequel il a collaboré au sein du groupe Ataxia, Josh Klinghoffer. 2 ans plus tard, le groupe publie I'm With You, le premier album avec Klinghoffer à la guitare, qui apporte de nouvelles influences musicales au groupe avec l'incorporation d'éléments de musique électronique. En 2016, après près 20 ans de travail avec Rick Rubin, les Red Hot Chili Peppers changent de producteur et choisissent Danger Mouse pour l'enregistrement de l'album The Getaway. En décembre 2019, ils annoncent le retour de John Frusciante pour remplacer celui qui l'a remplacé, Josh Klinghoffer. Donc une histoire tumultueuse, mais 37 ans après sa création, le groupe est toujours actif. Voici By The Way, un extrait de l'album du même nom, les Red Hot Chili Peppers. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee overload. Street, but not the freeway. Turn that trick to make a little leeway. Beat that nick, but not the way that we play. Dogtown, bloodbath, ribcage, softail. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there. Show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I
I'd be there waiting for Danny. The girl is singing songs to me beneath the marquee, oversold. By the way, I tried to say I'd be there waiting for.
Voilà, c'était By the Way, un extrait de l'album By the Way publié en 2002 par les Red Hot Chili Peppers.
On reste aux États-Unis, le pays du rock. Nous sommes toujours un 25 juin et on va rendre hommage au roi de la pop. Nous sommes le 25 juin 2009. Je m'en souviens comme si c'était hier. La SCAF nous avait généreusement offert un voyage tout frais payé ou presque. Direction la Turquie. Club oblige, la piscine était le lieu de rendez-vous de toute faune de jeunes et de moins jeunes. Édouard venait d'avoir 8 ans et ne se doutait pas un jour que François Fillon perdrait les élections présidentielles pour soupçon d'emploi fictif de son épouse Pénélope. Un mojito d'un côté et la mer à perte de vue de l'autre, un bruit se fait de plus en plus insistant malgré les milliers de kilomètres qui nous séparent de notre civilisation. Le roi de la pop est mort. Le roi de la pop, les Beatles ont disparu depuis longtemps et les Beach Boys ne se sont toujours pas remis de Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Mais oui, que suis-je bête, pourquoi n'y avais-je pas pensé plus tôt ? Michael Jackson est mort. Pour le titre, dont certains l'ont affublé depuis des années, il y a peut-être exagération, surtout que cela fait longtemps qu'il ne brille plus de mille feux. Il est loin le temps des Jackson 5, assurément le plus talentueux de la famille, et d'une carrière solo débutée en 1972 sous le mythique label Motown. En 1979, il signe chez Epic Records, une filiale de Sony, et s'attache les services du producteur Quincy Jones. Il dit à Michael « Ne t'inquiète pas, j'adore quand on me sous-estime, c'est là que je suis le meilleur ». Le résultat ne se fait pas attendre. L'album Off the Wall, sorti le 10 août 1979, renverse tout sur son passage, mélangeant harmonieusement funk, disco, pop et soul. Il dévoile au passage l'étendue de la voix du chanteur. Quincy Jones décide de faire appel notamment à Rod Temperton, Paul McCartney ou encore Stevie Wonder, et choisit l'un des meilleurs bassistes du monde, Louis Johnson, qui travaillera sur Thriller. Off the Wall a non seulement contribué à la célébrité et au talent de Michael Jackson, mais a aussi battu des records. Le disque a été le premier pour un chanteur à obtenir 4 titres classés, record qu'il a lui-même battu ensuite. Ce soir, il est temps de rendre hommage au roi de la pop avec un extrait de son album Off the Wall, le cultissime Don't Stop Till You Get Enough, Michael Jackson.
You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like just right.
Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough et un album tout aussi cultissime, Off The Wall, sorti en 1979. La suite, vous la connaissez mieux que moi. Je me suis arrêté à Thriller, Monstrueuse Galette, sorti en 1982. Michael Jackson nous a quittés le 25 juin 2009. Suicide ou homicide involontaire de la part de son médecin, la justice a tranché pour la deuxième solution. Il y a longtemps que Bambi ne vivait plus sur Terre, il nous restera sa musique, ses pas de danse et malheureusement ses excentricités qui auront gâché sa vie et son image. Michael Jackson, le funk, la pop, le rock et la danse le remercie. On reste aux États-Unis, l'autre pays du rock indé pour Tonio. Il a décidé de rendre hommage à un batteur, encore un, qui a disparu le 2 juin 2007. Visiblement, les artistes américains ne savent pas nager.
Oui, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, le groupe en question, c'est Raha Riot. Alors, on va peut-être le dire Raha Riot, c'est peut-être mieux. Raha Riot, qui est un groupe de rock indépendant américain, tu l'as dit, qui s'est formé en janvier 2006 sur le campus de l'université de Syracuse. Ils enregistrent une démo en février 2006. Le groupe attire l'intérêt en concert, plutôt bien accueilli par la presse spécialisée. En Europe, ils ont assuré les premières parties de concerts d'Editors. Et j'ai pu consulter le rapport officiel d'enquête.
Ah bon?
Tu vas voir, c'est vachement précis. Le 2 juin 2007, à 3h du matin, leur batteur John Ryan Pike disparaît dans des circonstances mystérieuses lors d'une fête dans le Massachusetts, après un concert à Providence dans le Rhode Island. Son portable est retrouvé sur une plage. Son corps, le 3 juin 2007, à 4h10 du matin, à Buzzards Bay. C'est très précis, hein, attention.
Ben oui. Belle enquête.
Ouais, tu vois. Il semblerait que Pike se soit noyé. J'ai pas pu consulter le résultat d'autopsie. Malgré cette tragique disparition, le groupe poursuit. En juillet 2007, un EP 6 pistes est publié. À l'hiver 2007, le groupe signe avec la major V2 Records. Pour célébrer la signature, Raha Riot sort Dying Is Fine et Each Year en format vinyle. En décembre 2007, le groupe annonce avoir terminé son album et cet album intitulé The Rhomb Line sort en août 2008. Le titre St. Peter's Day Festival rend hommage à John Ryan Pike. Toujours actif, le groupe a publié 4 albums depuis 2008, le dernier Super Bloom en 2019. Voici Dying Is Fine, un extrait de The Rhomb Line, sur lequel John Ryan Pike joue de la batterie, le titre ayant été enregistré avant sa disparition. Dying Is Fine, Raha Riot. Dying is Fine, un titre de Rara Riot, un extrait de l'album The Rum Line sur lequel jouait John Ryan Pike à la batterie.
On change de continent et on arrive en Angleterre. Décidément, l'autre pays du rock, avec le bassiste d'un des plus grands que le monde du rock et progressif en particulier est connu. Je veux bien sûr parler de Yes. Le 28 juin, cela fera 5 ans que Chris Squire nous a quittés. Chris Key, me soufflent nos 17 auditrices et auditeurs fidèles. Si le nom de ce bassiste anglais ne vous dit rien, le nom du groupe qu'il forma à la fin des années 60 avec le chanteur Ian Anderson, le guitariste Peter Banks, le pianiste-organiste Tony Kaye et le batteur Bill Bruford vous rappellera peut-être quelques souvenirs de jeunesse. Il s'agit de Yes. Les moins de 40 ans auront bien du mal à se replonger dans les moments les plus commerciaux, mais pas forcément les plus talentueux, puisque pour beaucoup d'entre nous, il s'agit du tube de 1983 Owner of a Lonely Heart et son clip. Mais qui connaissait Yes avant? Les fans de rock prog de la première heure avaient grandi et certains avaient effacé de leur mémoire, décidément très sélective, cette période débutée à la fin des années 60. Pink Floyd, Genesis, Kim Crimson, Emerson, Lake & Palmer, Jethro Tull, Camel, Caravan, Ange, Soft Machine, Gong, autant de noms aujourd'hui disparus dans d'horribles souffrances artistiques et qui étaient sur le devant de la scène. Beaucoup de groupes britanniques, il est vrai, dont Yes, justement, avec des albums comme The Yes Album, Fragile, Close to the Edge ou Tales from Topographic Oceans, le groupe de Chris Squire, connu son heure de gloire tant en termes de vente que de reconnaissance des médias et du public. Leurs recettes, des arrangements élaborés, de longues pièces très structurées, des chansons longues d'inspiration classique et des pochettes dessinées par Roger Dean. Des millions d'albums vendus, des concerts à travers le monde, la machine Yes a perduré avec le temps malgré un line-up comme on dit chez les pros, d'une instabilité régulière à travers le temps, 24 musiciens ont participé à la vie du groupe, que ce soit sur disque ou sur scène. Fragile semblait-il nous dire en 1971 avec l'album du même nom, un des chefs-d'œuvre du genre que je vous propose de découvrir avec une chanson qui ne dure que 3 minutes et 29 secondes. On a connu plus long côté rock progressif, mais nous ne tenions pas à vous perdre ce soir. Long Distance Run Around, Yes. Long Distance Run Around, yes, extrait d'un de leurs chefs-d'œuvre Fragile, paru en 1971. Des membres originels, il reste Ian Anderson, Tony Kaye et Bill Bruford. Peter Banks, le guitariste, nous a quittés en 2013. Et Chris Squire, le seul à avoir participé à tous les albums de Yes de sa création en 1969 jusqu'à son décès le 28 juin 2015, victime d'une leucémie à l'âge de 67 ans. Ce dernier n'a pu accompagner ses camarades lors de l'intronisation du groupe au Rock and Roll Hall of Fame en 2017 en compagnie d'Electric Light Orchestra, John Baez, Journey et de Pearl Jam. Les fans de rock progressif auront apprécié ce clin d'œil à l'un des plus grands groupes de rock du monde, quoi qu'en dise le journal local. Les autres découvriront sûrement le vrai Yes, pas celui de 1983 et de Owner of a Lonely Heart, mais d'albums mythiques tant pour la musique que les pochettes que sont Fragile, The Yes Songs ou Close to the Edge. On reste au Royaume-Uni, mais on va du côté du Pays de Galles, où est né un combo de rock comme Tonio les aime, un groupe toujours debout malgré le décès de son batteur, un certain Stuart Cable, le 7 juin 2010, visiblement fidèle à sa devise, sexe, alcool and rock'n'roll.
Eh oui Michel, c'est le groupe Stereophonics. Tout commence au début des années 90, lorsque Kelly Jones, guitare chant, Richard Jones, la basse, et Stuart Cable, la batterie, trois amis d'enfance décident de monter un groupe de rock qu'ils nomment à leur début Blind Faith, ce qui était aussi un nom de groupe. Est-ce qu'il te dit quelque chose ce nom de groupe? Blind Faith? Non, c'est un groupe d'Eric Clapton.
Non.
Peu de temps après, ils le renomment Tragic Love Company en s'inspirant des noms de leur groupe préféré, The Tragically Hip, Mother Love Bone et Bad Company. Plus tard, Stuart Cable, inspiré par l'inscription stéréophonique qu'il peut lire sur le phonographe de sa grand-mère, décide avec l'accord des membres de changer le nom du groupe en The Stereophonics. Jusqu'à ce qu'en 1996, le groupe prenne son nom définitif de Stereophonics en enlevant le « the » devant. Originaire, comme tu l'as dit, du Pays de Galles, ils ont fait leur début dans des pubs de la région en faisant de nombreuses reprises. Leur carrière professionnelle commence réellement en 1997 lorsque Richard Branson, créateur de Virgin, leur propose de signer un contrat pour le nouveau label qu'il vient de créer, V2 Music. Le premier album du trio gallois, intitulé World Gets Around, sort en 1997. Il comprend des riffs de guitare et un mélange de rock et de poésie, avec des textes romantiques écrits et chantés avec une voix éraillée par Kelly Jones. L'album devient disque de platine en Grande-Bretagne, avec 500 000 ventes. Performance and Cocktails, publié en 1999, et Just Enough Education to Perform, que les fans connaissent sous le nom de
Jeep.
Et donc cet album en 2001 rencontre également un certain succès. L'année 2003 marque un tournant pour le groupe qui sort le quatrième album, You Gotta Go There to Come Back. Il présente une nouvelle facette de Stereophonics, un album plus mûr que les précédents au niveau des paroles et de la musique. Quelques mois après la sortie de cet album, Stuart Cable est forcé de quitter le groupe en 2003 en raison de son manque d'implication. Peut-être dû à son alcoolisme, j'ai pas trouvé l'info. Il est alors remplacé par le batteur argentin Javier Weyler. À la suite de son départ, il crée un nouveau groupe de rock nommé Killing for Company. Le groupe s'est produit en première partie de The Who en juin 2007 et il fera également une courte carrière dans le monde des médias, notamment en tant qu'animateur d'une émission télévisée Cable TV sur BBC Wales. Cable est retrouvé mort dans son lit le 7 juin 2010 à la suite d'une soirée très arrosée. Sûrement un coma éthylique bien dépassé. Il avait 40 ans. Le groupe, avec ses deux membres fondateurs restants, plus les musiciens qui l'ont rejoint après, a poursuivi son chemin et a sorti 8 albums depuis 2003, le dernier Kind en 2019. Je vous propose un titre du premier album, donc intitulé World Gets Around de 1997, avec le titre Local Boy in the Photograph, Stereophonics.
Go back.
talk of the way they saw him last. Local boy in a photograph today. He's gone
Local Boy in the Photograph, un titre extrait de l'album World Gets Around, publié en 1997 par les Stereophonics.
On repart en Amérique, mais on ne change pas d'hémisphère, direction l'un des plus grands pays du monde, où les chanteurs ne manquent pas. Et il y en a un de moins depuis le 8 juin 2019, alors que Bolsonaro parle toujours, c'est le Brésil.
Brésil.
Bon, ce n'est pas uniquement ses dictateurs, son carnaval, sa déforestation, Gilberto Gil et le football, c'est aussi le rock et le métal en particulier. Alors si je vous dis Sepultura, Soulfly, soit vous n'y connaissez rien au hard rock et parfois vous ne perdez rien, soit vous vous rappelez vos jeunes années, la veste jean cloutée et le jean Mulburn, vous les fans de trash et de death metal. Par contre, si je vous dis Viper et Angra, vous me répondrez heavy metal et plus précisément power metal progressif, mélodique et symphonique. À la base, il est le chanteur André Matos. Il quitte Viper pour terminer ses études musicales à l'université en Allemagne. À son retour, il ne rejoint pas sa formation initiale et crée en 1991 avec le guitar hero Raphaël Bittencourt le groupe Angra, qui tire son nom d'Angra dos Reis, une ville brésilienne connue pour héberger la seule centrale nucléaire du pays. Des débuts speed metal mélodique avec un premier album Angels Cry accueilli favorablement par les critiques, comme le dit si bien notre ami Wiki que l'on salue, Angra passe ensuite à une musique plus progressive avec l'introduction d'éléments musicaux sud-américains. Holy Land, concept album sur l'histoire du Brésil, sort en 1996 et consacre le groupe comme l'un des meilleurs de la scène heavy metal. Angra continue de plus belle sur sa lancée avec un troisième album Fireworks, plus classique, moins sud-américain, on les retrouve même sur le plateau de nulle part ailleurs. Ce produit au Zénith et Bruce Dickinson monte même avec eux sur scène pour interpréter deux titres d'Iron Maiden. La vie est belle pour Angra, mais des problèmes de management et de divergence musicale, comme on dit chez les pros, surgissent et André Matos quitte le groupe et forme Shaman. Des membres originels du groupe, il ne reste que le guitariste. Angra existe toujours, mais a bien du mal à se faire une place sur une scène métal qui n'a plus le succès de la fin du XXe siècle. Ce soir, retrouvons le chant d'André Matos sur un titre ô combien prémonitoire, extrait du deuxième album Holy Land, The Shaman, Angra. The Shaman Angra, extrait de leur chef-d'œuvre de 1996, Holy Land. Le chanteur André Matos avait quitté le groupe en 2000 et avait rejoint justement Shaman. En 2006, il part pour une carrière solo et diverses participations, dont une avec Symphonia et Avantasia, qui regroupent les stars du heavy metal symphonique de l'époque. Le 8 juin 2019, André Matos meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 47 ans. Il restera pour toujours le chanteur emblématique d'Angra et le chef de file d'un métal brésilien qui a fait connaître son pays et l'a quelque peu sorti de ses clichés. Malheureusement, certains ont la vie dure et ce n'est ni Bolsonaro ni la forêt amazonienne qui me contredira. Retour à nouveau au Royaume-Uni avec un groupe britannique qui a connu son heure de gloire dans les années 70 et 80 et qui a vu disparaître deux de ses anciens membres en juin.
Oui.
Bob Welch le 7 juin 2012 et Danny Kirwan le 8 juin 2018. Heureusement, Mick Fleetwood et John McVie sont toujours en vie et le groupe également.
Oui, il s'agit du groupe Fleetwood Mac, qui à la base est un groupe britannique originaire de Londres. Formé par le guitariste Peter Green, le batteur Mike Fleetwood et le guitariste Jeremy Spencer en 1967, le groupe engage un premier bassiste, Bob Bruning, avant l'arrivée de John McVie, qui établit la première formation stable du groupe. Fleetwood Mac enregistre alors son premier album, et le nom Fleetwood Mac est issu de la combinaison des noms de famille de Mike Fleetwood et de John McVie, seul membre permanent tout au long de la carrière du groupe. Danny Kirwan se joint comme troisième guitariste en 1969 et la claviériste Christine Perfect en session pour leur deuxième album, épouse par la suite John McVie et se joint au groupe en 1970. À cette période, le groupe se consacre principalement au British Blues, publiant le hit Albatross et d'autres singles comme Howell et Black Magic Woman. Des problèmes internes mènent au départ des guitaristes Green et Spencer remplacés par Bob Welch et Bob Weston. Cependant, Welch et Weston partent aussi en 1974 laissant le groupe dépourvu de guitariste et chanteur jusqu'en 1975 lorsque le guitariste Lindsey Buckingham et la chanteuse Stevie Nicks, tous deux américains, font leur entrée au sein du groupe. À l'origine, formation de blues rock, Fleetwood Mac évolue au fil des départs et arrivées de ses membres et connaît son apogée commercial à la fin des années 70 dans un registre pop rock. Le groupe est notamment connu pour son album Rumours, sorti en 1977, vendu à ce jour à 40 millions d'exemplaires, ce qui en fait un des albums les plus vendus au monde. Fleetwood Mac a la particularité donc d'avoir deux de ses anciens membres, donc Danny Kirwan et Bob Welch, décédés à un jour d'intervalle, mais pas la même année. Danny Kirwan, lui, est décédé le 8 juin 2018 d'une pneumonie aiguë, et Bob Welch, lui, s'est suicidé le 7 juin 2012 après avoir appris qu'il y avait une maladie incurable. Voici un titre donc de Fleetwood Mac, tiré de leur album Tango in the Night, publié en 1987. Voici Little Lies, Fleetwood Mac.
Oh no, you can't deny.
Little Lies, que l'on peut retrouver sur l'album Tango in the Night, publié en 1987 par les Fleetwood Mac.
Il va être l'heure de se quitter. Tonio, bonsoir.
Michel, bonsoir.
La semaine prochaine, retour dans les studios de Radio B, où nous vous donnerons envie de sortir en concert la saison prochaine. Vous ne raterez rien de la programmation de cette rentrée, qui s'annonce radieuse et pas uniquement parce que nous fêterons les 20 ans de l'émission. Sur ce, passez une excellente semaine sous les 90.0
de Radio B.
Bonne soirée.
Salut à tous.